nous avons écrit. Alors peut-être que mon épouse s'est méfiée de ma profession, parce que je suis avocat. C'est curieux cette appréhension. Je rencontre des avocats. Alors, nous ne pouvons pas commencer cet hommage sans cette intervention sans rendre hommage à nos parents respectifs. Je crois que la transmission de la foi, elle est là. Elle est d'abord dans l'hommage à nos parents qui nous ont transmis cette même foi. Nous sommes tous les deux issus d'une lignée chrétienne. Et pour ma part, j'ai eu la chance, le privilège d'être l'enfant d'un foyer extraordinaire, d'un couple, d'un père et d'une mère qui avaient pour visée de reconstruire la France chrétienne après la Seconde Guerre mondiale. Et papa a été co-créateur de la cité catholique aux côtés de Jean Mousset dans les années 50 à Paris. Et mes parents ont eu 14 enfants, je suis le 14e, donc une ouverture à la vie, comme l'a rappelé avec une extrême douceur à Marie tout à l'heure, voilà, l'accueil de la vie des familles chrétiennes. Et maman, à côté de ça, tout en ayant porté 12 fois la vie et accueilli deux adoptés au foyer, était à la fois une grande intellectuelle, a écrit dans l'itinéraire aux côtés de Jean Madiran. Voilà. Donc cet hommage, je crois, appuyé est nécessaire. Nécessaire parce que c'est rendre justice. Puisque le Christ est la source de la grâce du mariage, les époux chrétiens ne peuvent priver leurs enfants de cette source. Sinon, ils se renient eux-mêmes, ainsi que leur Dieu. Et nous avons le risque de devenir relapses de notre foi. La priorité de la transmission de la foi aux enfants ne se puise donc pas en premier lieu dans la liberté et la responsabilité simplement humaine, mais au cœur de l'amour de Dieu qui nous pousse, qui nous mène au large, donc in alto. Alors une première partie nous conduit à nous poser la question « Pourquoi est-ce une priorité ?» Et une seconde partie appellera une imagerie plus concrète d'épisode de la vie de notre foyer en répondant comment nous en faisons, nous tentons d'en faire dans notre vie de foyer une priorité. Alors pourquoi la transmission de la foi est-elle une priorité? Le jour de notre mariage, nous avons dit oui. Oui à la fidélité, à l'ouverture, à la fécondité, à la vie. Mais nous avons dit oui aussi à l'éducation chrétienne de notre progéniture. De la même façon que nous avons le devoir de nourrir et de soigner leur corps, comme l'a rappelé tout à l'heure pour la loi naturelle de Pierre-Olivier, nous avons l'obligation de nourrir et de soigner leur âme. Ainsi, la première nourriture que nous puissions leur offrir est celle, comme cela a été rappelé également déjà hier dans les divers témoignages, et bien la nourriture du baptême et du baptême des nouveau-nés. Certes, les enfants ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés, mais nous avons la responsabilité de créer le climat propice à l'alimentation de leur âme, à l'épanouissement de leur âme dans le Seigneur, car il s'agit de la grave question du salut. Et lorsque nous avons prononcé le mot « salut », nous avons presque tout dit. La transmission de la foi n'est donc pas une option pour le foyer chrétien, mais une nécessité vitale, car il s'agit plus ni moins de la vie éternelle de nos enfants et de la nôtre également par la mère. Dès lors que nous croyons que l'enfant est don de Dieu, fait pour Dieu, il n'existe dans la transmission de la foi aucun temps mort admissible, car l'enfant a soif de Dieu, faim de la vérité, et ce serait péché gravement de rester inerte. Il est surprenant de constater la réceptivité de l'éveil spirituel des tout-petits. On l'a dit également, si l'on recherche une preuve de la soif innée des enfants pour leur Seigneur, il suffit de se pencher sur cet éveil des tout-petits. Pourquoi est-ce une priorité? Eh bien aussi parce que la parabole des talents nous l'enseigne et que nous devrons rendre compte au nom de l'amour de Dieu. Thank you.
donc dans un deuxième point, comment se traduit donc notre priorité, celle de transmettre la foi à nos enfants, concrètement cette fois-ci, dans la vie de notre foyer, donc l'application pratique de notre mission. Mariée depuis 21 ans, avec cet enfant de bientôt 20 ans à 22 mois, il nous est apparu avec Luc Étienne que les parents chrétiens du 21e siècle doivent se comporter comme des super-héros. Nos grands-parents bénéficiaient dans l'éducation chrétienne de leurs enfants de multiples relais. Au sein des paroisses, la catéchèse tenait la route avec un bon curé. Il existait des patronages. L'école laïque et républicaine véhiculait elle-même des enseignements sur les valeurs morales. La société tout entière était encore empreinte de chrétienté jusque dans ses lois. En revanche, en 2010, nous avons le sentiment que toute la responsabilité de la transmission de la foi à nos enfants repose sur nos humbles épaules de parents. En effet, la société exerce sans relâche des pressions si fortes, proposant à nos jeunes une vie où Dieu est nié, gommé. En somme, il faut pouvoir faire le point. Nous avons expérimenté que nous ne sommes jamais seuls, même dans les tempêtes les plus tourmentées. À l'époque où nous étions jeunes mariés, vivant à Paris avec un enfant, puis deux enfants, la vie de famille au sein de la capitale nous semblait infernale, mais nous avions une vie spirituelle très riche à offrir aux enfants, à portée de main. Ils étaient enfin adorateurs à Montmartre le mercredi, et nous y retournions en famille une fois par mois pour dormir sur place en tant que foyer adorateur pour la nuit. Avec notre installation en Lozère, pour raison professionnelle il y a 14 ans, nous découvrons la beauté de l'environnement, certes, mais à côté d'un désert spirituel cuisant. Aux yeux des Lozériens, nous apparaissons comme des croyants inaccessibles, parce que trop parfaits. C'est la technique pour nous faire taire, nous censurer. Alors que notre famille, église domestique, ressemble à la majorité des familles catholiques pratiquantes, rien d'exceptionnel. Nous avons nos qualités et nos misères. Chaque enfant possède son coin prière dans sa chambre. Il existe un coin prière familial au cœur de la maison. Dans la ferme que nous avons restaurée, nous avons installé un oratoire dans un charmant habitacle en pierre voûtée et lose. Pour les grandes occasions, la messe peut y être dite. On a récupéré un harmonium miniature qui nous vient du Carmel et fait faire un petit vitrail de Saint-André apôtre dans la scène de l'évangile des cinq pains et deux poissons. En transmettant la foi, nous éduquons aussi nos enfants à la notion de bon. Pourquoi un vitrail de Saint-André? Notre maison s'appelle le Mas Saint-André, suite au décès à l'âge d'un mois de notre fils André, il y a 11 ans. Les trois enfants déjà nés à l'époque ont vécu dans leur chair cette épreuve décapante pour notre famille, et en même temps, nous pouvions voir au travers d'eux qu'ils avaient chacun un rendez-vous sanctifiant avec le ciel, puisqu'ils avaient un petit frère déjà installé là-haut. Le climat propice à faire grandir la foi, dont parlait Luc Étienne en première partie, que beaucoup partagent ici, consiste le plus simplement du monde à faire vivre une respiration de Dieu à nos enfants au fil du jour. La prière du matin, en allant à l'école, au collège, au lycée, dans la voiture. Un trajet correspondant à une dizaine de chapelets pour nous. Bénédicité avant chaque repas. C'est arrivé d'ailleurs que ce soit notre dernier, âgé de 18 mois, qui nous rappelle à l'ordre en faisant son signe de croix. Heureusement qu'il était là, à la fierté générale des frères et sœurs. Adoration le jeudi, une fois par semaine, à la sortie des classes. Prière en famille, ou presque, quand les chrétiens rentrent tard, le soir. Moment privilégié où les liens se tissent dans l'intimité du cœur de nos enfants avec leur Créateur, où ils trouvent la consolation et le pardon. Les intentions personnelles des enfants sont terriblement généreuses. guérison pour une personne accidentée, conversion demandée par le professeur de guitare lui-même à un de nos enfants. Saint Joseph est beaucoup invoqué pour que papa ait du courage au travail. Nous apprécions particulièrement avec les enfants la prière pour les vocations religieuses et sacerdotales. Au sein de la fratrie, ils seraient très heureux que certains d'entre eux soient appelés et nous l'expriment avec émerveillement. Je fais la catéchèse à la maison et appelle régulièrement à l'aide Saint-Pierre de Coupville pour permettre à l'un de vivre sa première communion ou tel autre sa profession de foi ou encore une retraite de confirmation. Et Luc-Étienne s'apprête à vous parler des points précis de combat.
Le combat le plus rude, parce que le plus délicat, affectivement, spirituellement et le plus perfide, c'est celui que nous avons dû mener au sein même de l'institution catholique en Lozère. Sur trois points, l'école, la paroisse et le scoutisme. Nous avons été contraints de poser des actes douloureux, mais libérateurs. Deux aînés, deux grands aînés, garçons et filles, ont été initialement scolarisés dans un établissement privé catholique, où ils se sont retrouvés, malheureusement, par des pics, par des petites brimades, affectés dans leur existence quotidienne, au point de revenir avec le soir des chagrins très lourds à supporter. Tiens, il me revient en mémoire un peu d'un petit exemple très parce que ça s'approche. Professeur d'informatique de notre aîné, à Noël, lui demandait de faire une petite carte. Notre aîné a eu l'idée, c'est très original, à Noël, dans le temps de Noël, de faire une crèche. Carte informatique, il fait sa crèche, le professeur d'informatique passe dans son dos, c'est dans le privé catholique en disant, mais efface-moi ce tonneur. Voilà, c'est ça le terme, je cherchais le mot exact, efface-moi ce tonneur. Voilà, c'est un enfant évidemment dans le cœur, parce que ses parents doivent ensuite justifier pourquoi on a inscrit son enfant dans l'école catholique et qu'il se retrouve face à un tel professeur, un tel primaire même aussi. Considérer tous les énervements qu'on a dans la vie, bon, c'est évidemment quelque chose de très, très douloureux. Alors, nous avons retrouvé, heureusement, un refuge, bien sûr, dans la prière tous les jours, mais surtout sur le plan scolaire, un refuge dans l'établissement public. Et nos enfants, maintenant, sont inscrits dans le public, où là, certes, évidemment, il n'y a pas d'intensité volontaire, mais il y a le respect minimal, le respect purement humain, je dirais. Ensuite, au sein de la paroisse cathédrale de Mende que nous avons servi pendant 10 ans, dans des animations liturgiques, de catéchèse, au service de l'économie de diocésaine également, enfin, nous avons donné de nous-mêmes sur beaucoup de points de la pastorale, nous avons dû quitter une messe dominicale à la cathédrale pour nous réfugier au Carmel de Mende, où la seule présence des sœurs et de l'habit est édifiante pour les enfants. Et là, notre troisième, de servir à la messe tranquillement, sereinement le dimanche, et ne pas être livré à, là également, des petites brimades sur le plan liturgique aussi, en disant, mais pourquoi t'en fais trop? Alors, on a entendu une fois même de la part d'un ecclésiastique, l'encens a pu. Des phrases qui sont, mais qui restent en mémoire pour les enfants, qui sont presque des deuils pour l'enfant, voilà, des deuils déjà apportés tout petit. Également chez les scouts, initialement, nous avons inscrit notre enfant naïvement, mais parce que nous, dans notre vie 3, même si je viens d'un milieu bien précis, j'ai reçu la première communion de Mgr Lefebvre le jour du mariage de ma sœur aînée. Bon, nous n'obéissons pas des étiquettes, nous regardons plutôt l'encadrement que les étiquettes. Nous avons inscrit nos enfants au scout de France. Et puis, au scout de France, ben, à la messe du dimanche, lors de la sortie du dimanche, n'était pas programmée. Alors, peut-être qu'on n'a pas été assez prudent, parce qu'il aurait peut-être fallu qu'on se rende un petit peu mieux avant. Alors, nous avons, évidemment, ça aboutissait à des incongruités totales. Nous avons cherché de nous traîner le jour du dimanche pour l'emmener à la messe, pour le ramener ensuite dans le groupe, mais c'était du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi, et ça blessait tout le monde. Ça blessait tout le monde, donc c'était du contre-témoignage de part et d'autre. Ah, voilà. Ce à quoi il a fallu faire face. Alors on a trouvé, là encore, un refuge chez les scouts d'Europe de Rodez. Alors priorité dans la transmission de la foi. Oui, mais à quel prix? Parce que Rodez, c'est quand même à 120 km de Mende. Alors, quelquefois, il fallait faire 120 km le samedi matin, 120 km le samedi soir. Bon, mieux quand c'était, ça allait un peu mieux quand c'était pour le week-end, donc on faisait 120 le matin, le samedi matin et 120 le dimanche soir. Mais bon, c'est, voilà, c'est à ce prix des kilomètres, du gasoil, de la gomme de caoutchouc, et c'est bon, de l'énergie. Mais je crois que c'est ça, vivre concrètement dans sa fatigue quotidienne, donc la priorité de la transmission de la foi. Le critère, l'axe, le cap de toutes ces décisions parentales, donc douloureuses dans l'institution catholique, à chaque fois, c'est donc mettre en priorité la transmission de l'enfant. Et la plus grande satisfaction, elle se vit lorsque l'enfant montre qu'il sait, et bien qu'il a grandi, comme disait Anne-Marie tout à l'heure très très justement, lorsque l'enfant s'est approprié la foi, il est dans la réflexion et que. Certes, le parent est bien sûr le premier témoin de la vie de foi, le plus proche, mais sa vie de foi est conduite maintenant par la formation de sa conscience. La formation de sa conscience, c'est quand l'enfant de lui-même choisit d'assister à la marche devant la vie à Paris, choisit de partir au pèlerinage de Chartres, au JMJ de Cologne, au pèlerinage à Mars, à Rome, en Cologne, à Lourdes, à Fatima, lorsque, en grandissant, ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités pour dire je veux faire ce pèlerinage. Là, c'est une grande consolation pour le cœur des parents qui ont pu être dans des moments douloureux affligés. Et je vais tout conclure, quand même. Alors, en conclusion, on peut dire que les parents sont bien des pèlerins missionnaires. Ce pèlerinage est semé d'embûches et de dangers. D'ailleurs, si parce qu'on croit qu'il y a Jésus partout. Hier, je me suis retombé sur le psaume 63. Écoute, mon Dieu, le cri de ma plainte, face à l'ennemi redoutable, protège ma vie, garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles entières. Bon, il suffit de retrouver dans la Bible des paroles qui réconfortent là aussi. On se dit, non, on n'est pas parano, on n'est pas parano. Le Seigneur nous a donné les paroles de la vie, justement pour des moments aussi troubles, résister, pour rentrer en résistance. Et il existe des pièges tendus aux pèlerins, les pauvres et humbles pèlerins que nous sommes. Eh bien, c'est celui dans notre société de se contenter d'une culture chrétienne, d'une sociologie chrétienne, qui est une forme de tiédeur. Le moyen d'y échapper, de prendre conscience que l'objet de cette transmission, eh bien, c'est de gagner son ciel. Mettre tous les atouts entre les mains de nos enfants afin de leur permettre de gagner le leur. Dans l'adversité, toutefois, il convient de garder la confiance, car nous avons reçu les grâces d'État du mariage pour assurer cette mission. Mais il serait nécessaire d'intégrer, nous le pensons, la priorité de la transmission de la foi dans les actes de la préparation au mariage. Est-ce un rêve pieux? Je pense que ça peut faire son chemin, ça peut faire son chemin. En ce qui concerne, nous avons eu la grâce immense de rencontrer la famille missionnaire de Notre-Dame qui vient alléger si précieusement notre joug parental. Et frère Xavier, d'ailleurs, nous invite en joie festivement à venir plus souvent pour essayer de répondre à son invitation. Et à l'orée de la messe, de la Sainte Messe dominicale, nous allons tous communier donc au Seigneur notre unité. Et nous pouvons, je crois, prier les uns pour les autres afin que nos cœurs demeurent humbles et droits pour rester les instruments du Seigneur pour transmettre la foi dans cet esprit du Seigneur, dans cette priorité, la priorité pour finir, c'est le Seigneur. Amen.